7h30 à Paris, 8h30 à Goma. Merci d'écouter RFI. Et tout de suite, le journal de Nemo en piste. Nemo, il y a un an, Bamako, Niamey et Ouagadougou annonçaient leur sortie de la CEDEAO. Aujourd'hui, leur retrait est effectif.
Avec quelles conséquences économiques pour ces pays réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel? Élément de réponse dans un instant. Un départ dont certains se réjouissent. D'autres, en revanche, le voient comme une tragédie. Réaction des deux côtés à suivre.
Dans ce journal également, un point complet et actualisé sur la situation à Goma.
La nuit a été calme dans la capitale provinciale du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, après des combats enregistrés hier matin. Aujourd'hui, le président kényan William Ruto organise un sommet de l'EAC pour tenter de relancer le processus de Nairobi. Nous y sommes dans ce journal. Puis à Yaoundé, où a été remis hier au président Paul Biya un rapport sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971.
Le Burkina Faso et le Niger disent ce mercredi au revoir à la CEDEAO.
En ce 29 janvier 2025, qui marque la sortie officielle des trois pays qui composent l'Alliance des États du Sahel, de l'organisation sous-régionale, un choix d'abord politique, mais aux conséquences forcément multiples et notamment économiques. Charlotte Cossé.
La zone de libre-échange et de circulation à laquelle avaient accès les pays de l'AES passe de 15 États aux 8 de l'UMOA. Ces trois pays se coupent également des aides de la CEDEAO, souligne François Giovalucci, chercheur ancien du Trésor français.
Il y a une banque de la CEDEAO qui s'appelle la BIDC. Les mouvements financiers sont inférieurs à 500 millions de dollars sur l'année 2023, donc c'est pas négligeable, mais c'est quand même pas majeur si on regarde les autres apports internationaux. En quittant la CEDEAO, a priori, on se met en dehors de la réalisation des grands projets d'infrastructures régionales. La commission de la CEDEAO a annoncé aussi un chiffre en disant que les pays de l'AES allaient perdre pour 500 millions de dollars d'investissements régionaux.
Sur ces trois États, les spécialistes alertent plus particulièrement sur les vulnérabilités du Niger. Modibo Maoumakalou, économiste malien.
Le Niger a 1500 km de frontière avec le Nigeria. Il y a beaucoup de commerce informel et formel aussi entre les deux et 70% de l'électricité qui approvisionne le Niger vient du Nigeria. Donc tout cela peut avoir un impact assez négatif, mais aussi avec les difficultés qu'il y a entre Niamey et Cotonou, s'il faut contourner Cotonou pour passer par Lomé, cela va engendrer des surcoûts.
En restant dans l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, ces États gardent le franc CFA comme monnaie et continuent à bénéficier des financements régionaux.
Et ce matin, la CEDEAO précise dans un communiqué publié il y a quelques heures que la liberté de circulation reste garantie pour les ressortissants de l'AES à l'heure actuelle et que leur passeport également reste valable.
Et hier, à la veille de ce départ officiel, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes des trois pays.
C'était le cas à Ouagadougou et Niamey, notamment où les manifestants scandaient des slogans hostiles à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et se félicitaient dans le même temps d'une dynamique nouvelle qu'ils appellent souveraineté réelle. Je vous propose d'écouter d'abord Abdoulaye Seydou, coordinateur du mouvement M62 qui soutient les autorités militaires au pouvoir dans ces trois pays.
C'est une décision qui a un caractère révolutionnaire du moment où elle nous permet de nous débarrasser d'une chaîne. Toutes les régions, toutes les villes du Niger et tous les chefs-lieux de département, les populations sont sorties massivement par milliers. C'est des millions de personnes, c'est l'ensemble du territoire national qui sont sorties pour montrer que, en dépit des difficultés, en dépit de toutes les manœuvres déstabilisatrices, notre peuple reste debout derrière ces dirigeants. C'est aussi une manière de réaffirmer la légitimité des dirigeants qui sont à la tête de l'AS, de dire que nous sommes conscients que le chemin il est difficile, mais il vaut la peine qu'on l'emprunte parce que c'est à l'aboutissement de ce combat que se trouve notre bonheur et notre mise-être.
D'autres, en revanche, se réjouissent beaucoup moins de ce départ des trois de l'AES. C'est le cas du journaliste burkinabé en exil, Ahmed Newton Barry. Il est membre du collectif pour la démocratie au Sahel, un mouvement qui rassemble des citoyens burkinabés, maliens et nigériens, installés en Europe et vivement opposés au régime militaire de leurs pays respectifs.
C'est une tragédie, un cynisme des militaires qui exploite l'ignorance des populations. Parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO, dans l'ensemble africain, est l'une des sous-régions la mieux intégrée, la plus évoluée. À titre d'exemple, à partir du 29 janvier. Quand vous avez une voiture à Ouagadougou et que vous voulez aller à Abidjan, il faut que vous payiez deux assurances. Alors que avant, avec la CEDEAO, votre carte brune vous permettait d'aller dans les 15 pays de la CEDEAO. Il y a beaucoup plus que ça. Nous avons la seule sous-région où on peut se déplacer avec sa carte d'identité et on peut s'installer partout sans avoir à faire des documents outre mesure.
Et cette décision, elle n'est pas populaire, selon vous, parmi les populations de l'AES ?
On ne peut pas aujourd'hui dire qu'elle est populaire. Personne n'a été consulté. Il n'est jamais trop tard pour combattre une décision inique.
Abdoulaye Sédou était au micro d'Abdoulaye Diko, Armen Newton Barry au micro de David Baché. Vous retrouvez les détails techniques de cette sortie de la CEDEAO et notamment les modalités de retrait sur notre site internet RFI.fr.
RFI à Goma, 98 FM.
La nuit a été calme à Goma.
Après des combats hier matin dans certains quartiers de la ville entre groupes armés du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise et ses alliés, nous sommes en ligne de Kinshasa avec notre correspondant Patient Ligodi. Bonjour Patient.
Bonjour Memo.
Quelle est la situation ce matin dans la capitale du Nord Kivu ?
À Goma, une accalmie relative est observée depuis la mi-journée d'hier. Certains habitants commencent à sortir dans quelques quartiers. Des commerces ouvrent timidement, mais il n'y a pas encore de taxis en circulation. Cependant, vers Katoyi et le camp militaire Katindo, il y a des tirs qui sont entendus en ce moment. Avant-hier et hier, des bureaux et même des entrepôts humanitaires ont été saccagés. Des sources humanitaires font état des nombreux abus, notamment d'agressions sexuelles perpétrées par des éléments armés. Il est encore difficile de dire par qui exactement. Il faut aussi ajouter que depuis hier, dans certaines rues de Goma, les images sont choquantes. Des corps sans vie gisent encore, mais aucun bilan officiel n'est disponible. Les hôpitaux sont saturés et les blessés affluent souvent transportés à moto, parfois en bus ou encore à pied. La ville est plongée dans le noir, selon Giscard Koussema, le directeur adjoint de la cellule de communication de la présidence de la République. Le président Félix Tshisekedi suit de près l'évolution de la situation. Toutefois, il n'a pas prévu de participer à la réunion convoquée par son homologue kényan William Ruto sur les tensions dans cette région. Il faut aussi peut-être, pour terminer, le chef de l'État congolais va s'adresser à la nation en début de soirée à travers un message radio télévisé diffusé en direct depuis ses bureaux de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, ont précisé ses services.
Patient Ligodi en ligne depuis Kinshasa. Et Patient, vous évoquiez ce sommet de la communauté des États d'Afrique de l'Est. William Ruto en est à la tête depuis novembre et il tente par là de redonner vie au processus de Nairobi, où l'on retrouve Gaëlle Lalex.
Le président kényan a rencontré hier Amina Mohamed, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies. La veille, c'est avec le président français Emmanuel Macron et le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio qu'il s'entretenait au téléphone. Sur X, William Ruto assure avoir reçu le soutien de chacun dans ses efforts pour la stabilité régionale. Le processus de Nairobi, lancé par son prédécesseur, le président Uhuru Kenyatta, est une coquille vide depuis près d'un an. Les relations entre William Ruto et Félix Tshisekedi se sont rapidement dégradées, Kinshasa soupçonnant Nairobi d'avoir pris le parti de Kigali. Mais le contexte a changé, explique Hassan Kanenje, directeur de l'Institut international sur la Corne. La déroute des forces de la SADC sur le terrain et l'échec des discussions de Luanda laissent Félix Tshisekedi à court d'options, poursuit-il. Selon une source diplomatique, en appelant la SADC, l'Union africaine et d'autres acteurs à prendre part à cette initiative, William Ruto ferait preuve cette fois d'humilité. Il reconnaît au moins la complexité de cette crise dont les retombées vont bien au-delà de l'Afrique de l'Est, poursuit-il. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
Je précise que ni Kigali ni Kinshasa n'ont confirmé la participation de leur chef d'État. Pour l'heure, de très nombreux ressortissants africains inquiets par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, préoccupés par l'un des grands axes de son programme, notamment l'expulsion des migrants illégaux du territoire américain. Le président a déjà décrété l'état d'urgence à la frontière sud avec le Mexique, décret qui inquiète des millions de migrants illégaux, et parmi eux, beaucoup d'Africains. Selon les données de douane et de la protection civile, 58 000 migrants venus du continent ont été enregistrés à la frontière avec le Mexique en 2023, soit 4 fois plus que l'année précédente. Diarouga Aziz Baldé.
Mamadou Alpha Diallo est l'un de ces migrants africains entrés illégalement par la frontière sud des États-Unis avec le Mexique. Ce Guinéen vit et travaille à Philadelphie en attente de son rendez-vous avec les juges d'immigration pour sa demande d'asile. Mais le décret du président américain sur l'état d'urgence à la frontière sud avec le Mexique ne le rassure pas.
Nous qui vivons encore ici avec ces mêmes procédures, nous avons peur. À tout moment, ce président peut prendre des décisions, des décrets qui annulent notre procédure. Il ne respecte pas les droits de l'homme, donc il peut affecter les procédures.
Des procédures pour le droit d'asile que Donald Trump a qualifiées de ridicules. Il promet des expulsions massives. De quoi susciter l'inquiétude de Fadoul Zakaria, président de l'ONG Démocratie et droits de l'homme africain, qui aide les migrants dans leurs différentes procédures.
Ce qui m'inquiète, c'est que le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé mardi qu'il mettait fin à une politique qui limitait la capacité des agents à arrêter des personnes sans papier, même dans les lieux sensibles, hein, notamment les lieux de culte, les écoles et les hôpitaux. Donc il n'y a pas de place hein, où on peut être à l'abri en fait.
Selon Fadoul Zakaria, les migrants africains en situation irrégulière aux États-Unis seraient près de 300 000 dispersés sur le territoire américain.
Au Sénégal, des discussions politiques hier entre le Sénégal donc et l'Union européenne, les premières même depuis l'installation des nouvelles autorités en avril dernier. Ce mardi, plusieurs membres de l'exécutif sénégalais ont rencontré les ambassadeurs européens. Objectif, parler de la suite de leur partenariat. Les détails à Dakar avec Léa Lisa Vesterhoff.
Premier partenaire économique et financier du pays, l'Europe au Sénégal, c'est aussi un contributeur au développement avec 328 milliards de francs CFA de dons depuis 2021 et jusque 2027, a rappelé le représentant de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani. De son côté, la ministre des Affaires étrangères, Yacine Fall, a rappelé les priorités du Sénégal dans sa coopération avec l'Europe.
D'abord, un partenariat qui puisse donner des résultats par rapport à l'emploi, qui puisse donner des résultats par rapport à l'échange de technologies, qui puisse aussi faire en sorte que les entreprises sénégalaises, comme les entreprises des partenaires, se retrouvent dans la création d'emplois, dans la création d'entreprises, mais dans l'agenda Sénégal 2050.
L'emploi, première urgence des nouvelles autorités avec un taux de chômage à plus de 20%. Un forum de l'investissement doit se tenir en avril prochain, a promis la ministre des Affaires étrangères. Tandis que sur les difficultés liées à l'obtention des visas européens pour les Sénégalais, une réunion est prévue dès mercredi prochain. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar. RFI.
Et puis c'est le fruit de près de 2 ans de travail commun entre chercheurs camerounais et français.
7 de chaque nationalité pour un rapport de plus de 1000 pages portant sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun entre 1945 et 1971. Un document remis la semaine dernière à Emmanuel Macron et hier au président Paul Biya. RFI Yaoundé, Polycarpe Samba.
En 2 ans de travaux, la commission dit avoir dépouillé 1100 cartons des archives, avoir eu accès à 2300 documents déclassifiés et réalisé une centaine d'entretiens entre autres. Un travail que les membres qualifient eux-mêmes de titanesque et qui n'a pas été sans défi, Alvin Diasembe, historienne camerounaise, membre de la commission.
En tant qu'individus ayant des trajectoires différentes, nous avions chacun ses sensibilités. J'en veux pour exemple mes divergences avec Koufane sur le rôle d'Aïdjo, ça a été très tendu et Dieu seul sait combien de fois nous avons dû écrire des parties ensemble.
Si les présidents Emmanuel Macron de France et Paul Biya du Cameroun ont eu la primeur de ce travail consigné dans un rapport de 1000 pages, l'historienne française Karine Ramondi, qui co-présidait avec le chanteur camerounais Blik Bassi cette commission, a rassuré du libre accès et gratuit sur Internet de ce rapport. Une volonté de partage qui ne s'arrête pas là, des recommandations ont été faites pour que cette période de trouble et méconnue de l'histoire du Cameroun soit enseignée.
Une des demandes qui a été faite au président de la République, c'est de faire entrer cette guerre du Cameroun comme une autre guerre de décolonisation dans les programmes scolaires. Nous avons fait des recommandations, nous les avons fait avec notre sérieux, notre objectivité, mais la suite politique ne nous appartient pas.
Une préoccupation à laquelle le président Paul Biya a lui aussi fait mention au Palais de l'Unité, il a évoqué la possibilité de l'élévation de lieux de mémoire à travers le pays et l'adoption de nouveaux programmes d'enseignement. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
C'est à Yaoundé, Andrea.